Je voudrais commencer par vous transmettre les amitiés de notre petite église à Dour. On est moins nombreux qu'ici. Vous avez un avantage ici, il n'y a que des jeunes. Chez nous, je suis un des plus jeunes. Je suis aumônier dans un home et bien souvent ma femme est étonnée de me voir rentrer après un culte parce qu'elle croit toujours qu'on va me garder. Mais bon, quand j'ai dit cela à une des animatrices, elle m'a dit « On ne veut pas de vous, vous êtes trop difficile ». Alors bon, ça me convient bien, et elle a raison. Une petite église à Dour, avec une petite différence, on a les mêmes chants pratiquement, quoiqu'on est beaucoup plus dans les ailes de la foi, à certains moments. Et puis, quand c'est le moment de la Sainte Cène, nous levons, et les frères et sœurs s'approchent de la table. Vous voyez, bon, c'est une autre façon, ce n'est pas plus mal, c'est différent. Et il y a quelque temps, on est tous autour de la table, et puis, bien sûr, si quelqu'un veut chanter, il chante, quelqu'un veut prier, il prie, on a un moment de louange comme cela, c'est sympathique, c'est bienfaisant. Et puis, voilà que pendant le moment de Sainte-Cène, une dame âgée entonne un petit chant que vous connaissez peut-être. « Jésus est au milieu de moi, son... » Vous connaissez, hein? Très bien, et elle chante, et nous suivons, pas de problème. Le dimanche suivant, nous nous retrouvons autour de la table. L'un prie, l'autre chante, et puis une autre dame commence. « Jésus est au milieu de moi. » Bon. Alors, ça revient assez régulièrement, et puis ça m'interpelle quelque part. Je me dis, oui, mais qu'est-ce qu'on chante là ?« Jésus est au milieu de moi. » Ça repose sur quoi ? C'est vrai ou pas vrai ? Puis ce matin, je viens, notre frère, dans son introduction, au moment d'inviter à la prière, nous rappelle que Jésus est au milieu de nous. Puis j'écoute les chants, et un des chants, « Jésus, nous te couronnons, et nous précisons, présent au milieu de nous. » Alors, quelque part, ça m'interpelle, « Jésus, présent ». Jésus présent au milieu de nous. Est-ce que c'est biblique? Ah tiens, vous êtes déjà posé la question? Parce que si nous chantons, il faut savoir ce qu'on chante. Et on nous l'a bien précisé dès le début. Et parfois nous chantons, et nous chantons par habitude. Nous chantons pour joindre notre voix aux autres, mais est-ce qu'il nous arrive de réfléchir à la portée de ce que nous chantons? Il y a des cantiques qui sont quand même dangereux. Oui, prends tout, Seigneur. C'est vrai ou pas vrai? Ouh, on chante, hein? Mais, Seigneur, ça, tu ne prends même pas trop, hein? Puis là, tu ne mets pas ta main, puis là. Oui, nous avons chanté, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. C'est vrai? Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Mais qu'est-ce qu'on chante? Si nous réfléchissons à ce que nous chantons, je crois que ça va porter quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. Mais aussi, il faut que ce que nous chantions repose sur ce que dit la parole de Dieu. Et quand nous disons « Jésus est au milieu de nous », est-ce que ça repose sur la parole de Dieu? Mais oui. Et ce que je vais faire ce matin est tout simple. Je vais prendre simplement quelques textes et au travers de ces textes, voir si ce que nous chantons correspond bien à la réalité. Et je ne vais faire que effleurer ces textes, ce n'est pas une étude biblique. Mais si vous êtes d'accord, on va prendre notre premier texte. Il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, c'est le verset 46. Alors, Luc, chapitre 2, c'est l'épisode quand Jésus a 12 ans. Vous vous souvenez? Quand ses parents l'ont conduit au temple pour la première fois. Il est resté à Jérusalem avec ses parents, et puis tout le monde retourne. Et les parents croyaient que Jésus était avec un autre groupe. Bien sûr, quand on fait quelques kilomètres à pied, une centaine de kilomètres à pied, plusieurs jours, ce sont des groupes qui sont comme ça entre eux. Tiens, Jésus n'est pas là, mais non, il est avec un autre groupe. Et puis à la fin de la journée, on se rend compte, mais Jésus a disparu. Où est-il? Et les parents commencent à paniquer, et on peut comprendre cela. Ils retournent à Jérusalem, et on nous dit, verset 46, « Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent, donc les parents à Jérusalem, pour le chercher, et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. » C'est assez intéressant de réfléchir simplement sur ces évangiles. Vous savez, il y a 4 évangiles. 4 évangiles qui nous présentent la même personne, la personne de Jésus. 4 évangiles qui mettent le projecteur sur sa personne. Matthieu, il projette sa lumière sur Jésus pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël. Ce qu'il veut dire, c'est Jésus est réellement le Messie qui a été annoncé, promis. C'est véritablement le Fils de Dieu. Et relisez l'évangile de Matthieu, vous allez voir toutes les citations de l'Ancien Testament. Tandis que Marc, il va mettre son projecteur du côté des Romains, l'Empire romain. Les Romains, les hommes d'action, les conquérants, les vainqueurs, les forts. Et ce qui intéresse là, un homme, que fait-il? Et vous allez remarquer qu'en lisant l'Évangile selon Marc, vous lisez, vous voyez un film d'aventure qui se déroule devant vos yeux. C'est extraordinaire. En quelques versets, 11-12 versets, Marc est passé depuis la naissance, enfin il n'en parle même pas, jusqu'au début du ministère de Jésus. Ça va vite, c'est de l'action. Luc, il écrit pour les Grecs. Alors les Grecs, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Quel est l'homme selon le plan humain, selon la pensée de Dieu? Et Luc va s'attacher à véritablement démontrer que Jésus est véritablement homme. Il va prendre du temps pour raconter la naissance de Jésus. C'est lui qui va nous parler de la visite des bergers. Et Luc est le seul à nous parler de Jésus à 12 ans. Et il va bien prendre le temps d'expliquer, voilà ce qu'est l'homme, selon la pensée de Dieu. Et Jean, lui, il va acheter son projecteur du côté du haut. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et alors, les 4 évangiles jettent le projecteur sur Jésus, et c'est pour cela qu'il est important de relire les évangiles. Vous croyez connaître les évangiles? Relisez-les. Prenez la peine de connaître votre sauveur. Prenez la peine de connaître le berger. Prenez la peine de connaître l'ami qui est fidèle et tendre. Et vous allez le découvrir sous ses différentes facettes. Et ici, nous le découvrons à 12 ans avec les docteurs. Chose étonnante, il les interroge. Moi, je trouve que il y a une image extraordinaire de l'humanité de Jésus. Jésus, Dieu fait homme. Il est venu comme un petit enfant. Il a grandi comme tous les enfants. Il n'était pas le super génie. Non, il a accepté de renoncer à ses prérogatives divines pour vivre au milieu des hommes. Il est là, il interroge, il pose des questions, il réfléchit. Nous avons un texte extraordinaire qui révèle son humanité d'une manière fantastique. Et il est là au milieu des docteurs. Et pourtant, ce Jésus qui pose des questions, qui interroge, ce Jésus, il est celui en qui se trouve tous les trésors de la sagesse et de la science. L'apôtre Paul va nous révéler qu'en lui, il y a une connaissance totale, extraordinaire. Et nous avons besoin d'avoir un Seigneur qui, pendant un temps, a accepté d'être abaissé, humilié, qui a renoncé à lui-même, mais qui, aujourd'hui, au milieu de son peuple, est capable de le conduire, de répondre à ses aspirations, de répondre à ses questions. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vais? Quelles sont les décisions à prendre? En lui sont tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse, n'est-ce pas? Et la sagesse, ce n'est pas simplement d'avoir une grosse tête. La sagesse, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Ce que je lis, comment est-ce que je vais le traduire aujourd'hui dans mon quotidien? Comment je vais manifester ce que j'ai lu de la parole de Dieu dans mes entretiens, dans mes rencontres, au travers de ce que je vis? C'est ça la sagesse. Jésus-Christ est celui qui peut résoudre, répondre à toutes nos aspirations. Mais je vous l'ai dit, on ne va pas rester tout un temps sur un texte alors qu'il y en a plusieurs. Un autre texte que je trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Et dans Jean 19, je trouve ce verset extraordinaire, c'est le verset 18. On nous mène là à Golgotha. On nous montre que Jésus est crucifié. Et on nous dit ceci, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Jésus entre deux brigands. C'est extraordinaire. C'est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été faite par le prophète Ésaïe. Il sera mis au nombre des malfaiteurs. Et Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Il est là entre deux brigands. Mais regardez ce tableau. Trois croix. Celui au milieu donne le salut. Un va refuser le salut, un autre va accepter le salut. Parce que devant la croix de Jésus, on ne peut pas être neutre. On accepte ou on refuse. Jésus a dit clairement, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Où est-ce que vous en êtes par rapport à la croix? Brigands, nous le sommes tous. On nous l'a rappelé, nous sommes pécheurs, rebelles, ennemis de Dieu. On peut avoir une bonne religion, une bonne moralité aux yeux de Dieu. Nous sommes condamnés et pécheurs. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et nous méritons ce que nos crimes ont recherché. Dans le fond, on ne mérite que la mort. Et là, nous voyons que Jésus est crucifié. Et Jésus crucifié prend sur lui notre péché. Il prend sur lui notre châtiment. Et là, nous sommes. De quel côté? Vais-je accepter le salut que Dieu me donne ou vais-je le rejeter? Un homme va mourir et il se moque de Jésus. Un homme va mourir et il insulte Jésus. Il est encore plus mauvais. Mais l'autre, aussi mauvais, prend la peine de se repentir, de rentrer en lui-même et d'invoquer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Vous aimeriez entendre ça? Alors il faut faire comme ce brigand. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Extraordinaire que c'est un brigand qui, le premier, a reconnu en Jésus le roi. Souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. Et vous avez remarqué, c'est Bossuet qui a dit ceci, il a fait un commentaire sur la phrase de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, quelle promptitude. Tu seras avec moi, quelle compagnie. Dans le paradis, quelle félicité. Il n'y a désormais plus aucune condamnation, dit l'apôtre Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus au milieu des brigands. Un troisième texte se trouve un peu plus loin, au chapitre 20, le verset 19, où je lis ceci. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». 8 jours après, verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, Thomas se trouva avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». À 2 reprises, on nous dit « Jésus intervient, mais c'est la résurrection ». Ce sauveur qui a donné sa vie est celui qui a vaincu la mort. Il est vivant. Il a fait mourir la mort. Il est ressuscité et il se présente à ses disciples. On pourrait prendre pas mal de temps pour réfléchir sur ce thème. Tout d'abord parce que toutes les portes étaient fermées. Tiens, Jésus est passé à travers la muraille. Extraordinaire cela, hein? Moi j'essaye, mais... Il n'est plus soumis aux lois de la terre. Il n'est plus soumis à ces lois. Il a un corps qui n'est pas un fantôme. On l'a touché, il a mangé. Mais il a un corps qui est glorifié. Et c'est ce corps glorifié qui sera notre corps glorifié aussi. Aujourd'hui, nous sommes sur terre et qu'est-ce que nous attendons ? L'enlèvement. Essayez une fois de monter maintenant. On n'y arrive pas. Mais Jésus va nous transformer, on va être enlevé au ciel. On va avoir aussi un corps glorifié. Dans le ciel, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Un grand festin. Mais si on ne mange pas, on n'aura plus jamais faim. Ce sera plus nécessaire, notre corps sera glorifié. On n'aura plus faim. On va se reposer dans le ciel. Mais si on ne dort pas, on a la vie éternelle, la plénitude de la force, on ne sera plus soumis à ces lois, comme Jésus. Mais en attendant, nous sommes sur terre. Et sur terre, comme enfants de Dieu, nous avons nos craintes, nous avons nos peurs, on a peut-être la peur des autres, on ferme la porte, on est replié sur nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un qui vienne et qui dit « Que la paix soit avec toi ». Mais en nous disant cela, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement ce qu'il leur a dit quelques jours auparavant. Je vous donne ma paix. Vous vous souvenez dans la chambre haute? Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est le même Seigneur qui a fait route avec eux et qui aujourd'hui est ressuscité et vainqueur. Et nous avons besoin d'un Seigneur qui est vainqueur. Nous avons besoin de croire en un Dieu qui a vaincu la mort. Pendant des années, quand j'étais gamin, une des choses qui m'a fait beaucoup peur, c'est la mort. Je ne sais pas, j'ai été marqué par un décès dans la famille. Et la mort me faisait, mais terriblement peur. Vous vous souvenez, quand les plus anciens, quand il y avait un deuil dans une maison, on mettait des grandes tentures noires sur la porte. On savait que là, il y avait un enterrement, je ne suis pas très joli. Et je me souviens que j'allais à l'école et quand je voyais ces rideaux-là, je traversais la rue. Aïe, aïe, qu'est-ce que j'avais peur. Peur, vous ne m'auriez pas eu dans un cimetière. Et puis après, c'est une des premières choses dont Dieu m'a délivré quand je suis devenu chrétien. Non seulement je n'ai plus peur de la mort, et... Une nuit, un monsieur est venu frapper et dit « Il faut que tu viennes avec moi chercher ma femme. Où est-ce qu'elle est ?» Au cimetière, 2h au matin. Après, je suis allé la chercher au cimetière. Il n'y a pas de dérangement, hein. Vous savez, c'est extraordinaire. On n'a plus peur. La mort a été vaincue. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort et il nous donne la paix. C'est extraordinaire. Depuis 15 jours... J'en suis à mon 5e enterrement. Des frères et sœurs qui sont décédés. Et bien sûr, on se pose des questions. Et j'ai vu des personnes qui partaient, qui n'étaient pas en paix avec Dieu. Mais j'ai vu des chrétiens partir. Et je les ai vus à la fin de leur vie, dans la paix. En sachant où ils allaient, prêts à partir, prêts pour rentrer dans l'éternité, alors que d'autres étaient dans la crainte. On ressentait leur peur. On ressentait leur effroi devant la mort. Vous savez, c'est terrible. Si Dieu coupe le fil de notre vie aujourd'hui,
prêt pour partir,
vous êtes en paix. Vous imaginez ? Extraordinaire de savoir que Christ a vaincu la mort. Voulez-vous un autre texte ? Matthieu, chapitre 18, le verset 20. Oh, ce sont des textes que vous connaissez. Ce sont des textes qui vous sont devenus familiers. Jésus a dit ceci, Matthieu 18, 20, « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quel verset formidable ! Mais c'est un verset avec lequel on triche. Ah, deux ou trois, on n'est pas nombreux, mais ça ne fait rien, le Seigneur est là, hein. Il l'a dit, hein, deux ou trois. Ça justifie parfois notre paresse. Pardonnez de le dire. Ça justifie notre inertie. Mais le Seigneur est là, ça nous suffit. Et on se contente comme ça d'être deux ou trois. Je crois que Dieu mérite plus que deux ou trois. Hein. Mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Quel est le contexte? Vous avez remarqué que le contexte de ce passage est « Si ton frère a péché, reprends-le ». C'est toute la discipline de l'Église. Et là où il y a la discipline qu'il faut exercer pour reprendre un frère qui a péché, pour aller vers quelqu'un qui désobéit et lui dire « Mon frère, il y a des choses à régler », ça se fait d'abord dans le privé. Puis s'il faut, on prend deux témoins, deux ou trois. Et là où la discipline de l'Église s'exerce, le Seigneur est là. C'est pas simplement pour nous dire, vous savez, le Seigneur est là, même si on n'est pas nombreux. Mais c'est de dire, dans des situations difficiles, là où il y a une discipline qui doit s'exercer, là où la parole de Dieu doit être observée, il est là, au milieu de son peuple, au milieu de deux ou trois qui veulent obéir. Il est là où deux ou trois s'unissent pour prier. Je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une même chose, elle leur sera accordée. C'est le contexte immédiat de ce verset. Et quand deux chrétiens se retrouvent et qu'ils prient, quand deux ou trois chrétiens s'unissent, pourquoi est-ce qu'on va prier? On va prier pour cela? On va s'y mettre. Une petite cellule de prière, une autre petite cellule de prière. Oh, mais quelle puissance! Parce que le Seigneur est au milieu des deux ou trois qui prient en son nom. Ne nous servons pas de ce texte, frères et sœurs, pour justifier nos petitesses. Mais au contraire, que si nous rencontrons une obéissance à la parole de Dieu, nous pouvons être assurés et de sa présence au milieu de deux ou trois. C'est un peu différent. Puis-je aller un peu plus loin, nous allons dans l'Ancien Testament avec le livre de Daniel. Oh, ben, Daniel, qu'est-ce que ce texte a à voir? Daniel chapitre 3. Alors, Daniel 3, ce sont l'histoire des amis de Daniel, trois compagnons qui devaient subir la pression politique et se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Et ils ont refusé de se prosterner. Ils n'ont pas fait alliance. Alors, Nebuchadnezzar a dit, si vous ne vous prosternez pas, vous serez jetés dans une fournaise ardente. Et ces hommes ont dit au roi, tu la fermes, nous on obéit à Dieu. Et si vous lisez Daniel 3, vous allez voir l'opposition entre ce monde qui fait pression sur le peuple de Dieu, sur les chrétiens, sur les enfants de Dieu pour les persécuter. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez les versets 24 et 25. Ces hommes vont être jetés dans une fournaise. Et on nous dit ceci. Ils tombèrent au milieu de la fournaise ardente, donc les trois compagnons de Daniel. Et le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva Précipitamment, il prit la parole, dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » La figure du 4e ressemble à un des fils de Dieu. Vous savez, où est Jésus avec ceux qui souffrent? Ceux qui souffrent pour son nom, ceux qui sont persécutés. Aujourd'hui, on a de la chance. On se retrouve librement ici. Vous pensez qu'il y a des quantités de chrétiens qui risquent leur vie parce qu'ils font comme nous? Ils sont simplement là, peut-être, en train de prier en cachette. 2 ou 3 chrétiens qui sont là en train de prier dans le secret parce qu'ils risquent leur vie. Parce qu'on a une Bible, on risque 3 ou 4 ans de prison. Si nous étions sensibilisés aux frères et sœurs qui aujourd'hui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Mais peut-être que vous-même, dans votre milieu familial, vous êtes persécutés. Peut-être que dans votre milieu professionnel, dans votre rue. Moi, je me souviens d'un jeune homme, il n'y a pas tellement longtemps, qui a pris position. C'est un garçon qui vient d'une famille athée. Et brusquement, il se laisse interpeller par le Seigneur au travers du message de l'armée du salut. Et il s'engage à l'armée du salut. Et quelque temps après, il apprend à jouer de la trompette pour faire partie de la fanfare. Formidable. Et puis, il a un uniforme. Oh, qu'est-ce qu'il en a bavé dans sa famille. On s'arrangeait pour ne pas lui faire à manger pour qu'il arrive en retard aux réunions. On s'est arrangé pour chiffonner son costume, ne pas lui repasser le... Il a dû tenir et tenir et tenir. C'est pas loin, quelques kilomètres d'ici. Il y a des chrétiens qui souffrent. Il y a des frères et des sœurs dans l'église qui souffrent. Et si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Jésus est là. Il est là. Quand tu passeras par les grandes eaux, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Il est là avec vous, dans la fournaise, dans votre épreuve. Il ne vous lâchera pas, parce que le Dieu qui vous a appelé est un Dieu fidèle. Qui vous séparera de son amour? Rien ni personne. Rien ne peut vous séparer de son amour. Même si vos circonstances sont difficiles, vous n'êtes pas tout seul. Jésus ne va pas vous retirer de la fournaise. Il sera dans la fournaise avec vous, et c'est là où des gens comme Nebuchadnezzar et les siens vont reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Il ne vous abandonne pas. Vous souffrez dans votre famille, vous n'êtes pas seul. Vous souffrez au travail, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là et au milieu du feu, il ne vous lâchera pas. Il faut que vous le sachiez parce que la parole de Dieu le dit. Nous allons très vite. Dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 1. Pas difficile le dernier livre, hein? Jean a la première vision du Seigneur Jésus au chapitre 1er, verset 12. Il entend parler et il dit ceci, « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Et au chapitre 2, verset 1, on va nous décoder cela. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Le Seigneur est là, au travers des 7 chandeliers. Et les chandeliers, on va nous le dire, ce sont les églises locales. Combien notre frère avait raison quand il dit le Seigneur est au milieu de nous. Il est au milieu de l'Église locale. Toutes ces petites églises locales qui revendiquent du nom du Seigneur Jésus, il est là, il en est le chef. Qui est le chef de l'Église? Qui se tient au milieu? Qui connaît bien la situation de l'Église? La situation de l'Église de d'Otigny n'est peut-être pas la même que la situation de l'Église de Dour, ou de Quiévrain, ou de Charleroi, ou que sais-je. Ah, pas d'important. Il sait les points forts de l'Église. Il sait les points faibles. Il sait ce que nous avons besoin. Il sait ce qui va bien. Et il le reconnaît. Il y a des gens qui sont tellement tordus, quand ils voient quelqu'un, ils ne voient que ce qui ne va pas. Vous avez remarqué? Ils ne savent pas voir ce qui va bien. La semaine dernière, je parlais en disant comment réagir aux critiques, et j'ai dit, si vous êtes critiqué, commencez par essayer de trouver 5 qualités de la personne qui vous critique. Quand vous avez déjà trouvé 5 qualités, vous êtes déjà un peu plus indulgent envers la personne qui vous a critiqué. Essayez de trouver ce qui va bien chez l'autre, pas toujours ce qui ne va pas. Le Seigneur, il voit ce qui va bien, et il dénonce ce qui ne va pas en disant, mais là, il faudrait corriger. Là, il y a des choses qui ne vont pas. Et il fait les promesses. Vous croyez que Jésus est au milieu de l'Église? Vous croyez qu'il est le chef de l'Église? Alors, vous ne croyez pas que ça vaut la peine de le servir? De vous investir avec lui? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire un effort en plus pour avancer dans la vie chrétienne? Regardez, il est le chef de l'Église d'Otigny. Reconnaissons-le. Et là, ça va être extraordinaire. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Glorieux, l'Éternel, avec des gens comme vous et moi. C'est quand même fabuleux. C'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre. On vit beaucoup plus qu'une religion. On vit une relation avec ce Roi des Rois qui se tient ici, au milieu de nous. Et c'est lui qu'il faut voir. Je vais peut-être vous choquer, hein. Je me fiche personnellement de ce que vous penserez de la prédication. Si vous avez vu vers Jésus, c'est l'essentiel. Si vous avez fait un pas avec lui, c'est l'essentiel. Ce que vous pensez de moi, ça n'a pas d'importance. C'est ce que Christ est pour vous qui est important. Christ pour l'Église. Et puis, un dernier passage, si vous le voulez bien. Dans l'Apocalypse, toujours au chapitre 5, et au verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. J'en ai assez de souffrir sur cette terre, habille j'aille au ciel, que je sois débarrassé des misères. Mais je suis quand même un égoïste, parce que tout ce que je vois du ciel, c'est ce que moi je vais en retirer. Et si je considérais le ciel pour être avec Christ? Parce que bien souvent, ce que nous cherchons dans le ciel, c'est une fuite de nos responsabilités de la terre. C'est ne plus souffrir, être tranquille. Mais avez-vous déjà pensé que le ciel, c'est Jésus? Que quand nous allons au ciel, c'est pour être toujours avec lui. C'est lui qui est le centre. Et là, on a une vision de Jésus dans le ciel, et on nous dit, il est là au milieu de ces vieillards, c'est l'Église. Au milieu de tout ce qui vit, c'est l'Église. Et il est là, comme l'agneau immolé. La Bible nous le présente à certains moments comme le lion, le vainqueur. Mais elle nous le présente encore comme l'agneau qui a été immolé. Vos souffrances, elles sont en train de se cicatriser. Dans le ciel, il y aura des cicatrices qui vont être enlevées. C'est fini. On ne souffre plus. Il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Plus de deuil, plus de souffrance, plus de misère. Mais lui, il va rester avec les cicatrices de ce qu'il a connu sur terre. Il sera toujours l'agneau immolé. Et c'est quand on verra l'agneau immolé que là, on va réaliser la louange qui monte vers lui. On va l'adorer, on va le servir. Ne voyez pas seulement le ciel par rapport à ce que vous pouvez avoir, mais considérez le ciel par rapport à tout ce que vous pourrez apporter à ce Christ qui est l'agneau de Dieu, qui est là comme immolé. On aura toute l'éternité pour comprendre la grandeur de son sacrifice. Il sera toujours là comme l'agneau immolé. Et je pense qu'il est bon que dès le début nous réalisions que le centre, c'est Jésus-Christ. Le centre, il est au milieu. Gardez Christ au milieu de votre vie. Gardez Christ au milieu de votre cœur. Gardez Christ au milieu de vos activités. Gardez Christ au milieu de votre service. Que ce soit lui qui est la première place, mais la place centrale, et qu'il soit glorifié. Amen.